Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui revient sur la semaine politique québécoise, canadienne et un petit peu internationale. Quatre sujets. Les juges du Québec doivent-ils être bilingues? Le conseil privé produit des documents uniquement en anglais. Montréalais et canadien, mais pas québécois. Et Carl Puigdemont perd son immunité parlementaire. Mais tout d'abord, Joseph Facal, professeur à HEC Montréal et chroniqueur pour le Journal de Montréal, nous sert un petit abrégé de wokisme en nous avertissant d'emblée que cette idéologie est en gestation depuis longtemps, même si son irruption brutale est récente. Joseph Facal, merci de nous accorder cette cinquième, sixième entrevue de la saison et bienvenue encore une fois à Radio-VM.
Merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
Partagé, évidemment. Et évidemment, quand on parle de wokisme, ce qui a défrayé la chronique il y a depuis quelques mois, c'est surtout l'histoire de la liberté académique, donc à l'université, et la censure qui y sévit. C'est vraiment ça le bout d'étoupe enflammée qui enflamme le reste.
Oui, bien sûr. Je vous dirais que au Québec, les gens ont probablement réalisé qu'il y avait anguille, en fait serpent de mer sous roche, après l'incident survenu à l'Université d'Ottawa, où oui. Une jeune chargée de cours avait voulu expliquer que le sens des mots change avec le temps, notamment parce qu'il arrive qu'un mot qui se veut une insulte soit en fait repris par les insultés et transformé en marqueur identitaire, voire même en vecteur d'affirmation d'une fierté. Autrement dit, la jeune femme, à partir d'une posture progressiste, a fait son métier d'enseignante et le ciel lui est tombé dessus. À la limite qu'une poignée d'étudiants un peu radicalisés veuillent, comme on dit, grimper au rideau, bon, on pourrait comprendre. Mais là, évidemment, l'affaire a été est montée jusqu'à l'administration qui, d'une certaine façon, a pris fait et cause pour les plaignants. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous un réel problème et ça nous a donné une sorte de grille pour interpréter d'autres événements similaires survenus chez nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, nous voyons finalement arriver sur nos rives quelque chose qui sévit aux États-Unis depuis très très longtemps.
Donc il ne s'agit pas de dire, Joseph Facal, qu'il suffit que jeunesse se passe, c'est pas seulement chez certains jeunes illuminés en quête d'une justice utopique, cette idée woke, ce souci de justice exacerbé, est partagé par d'autres couches sociales, notamment à l'université, des professeurs évidemment, dans les médias, enfin c'est pas seulement circonscrit à 2-3 ayatollahs en premier cycle.
Non, pas du tout. À partir du moment où c'est un courant plus ou moins structuré qui nous vient des États-Unis et qui, au fond, est en gestation depuis une trentaine d'années, ben là, on peut comprendre que parmi les enseignants, ceux qui sont relativement jeunes ont eux aussi été abreuvés à certaines de ses œuvres. Bon, certaines sont américaines, d'autres relèvent de ce que les Américains eux-mêmes appellent la « French Theory », donc tout ce discours qui veut que tout n'étant qu'une construction, tout peut être déconstruit, Foucault, Derrida et compagnie. Et là où, évidemment, c'est devenu beaucoup plus inquiétant, à mon avis, c'est quand on a vu des doyens et même un recteur finalement dire « ben, excusez-moi, il y a des groupes majoritaires, des groupes minoritaires, et les groupes majoritaires n'ont pas la légitimité d'imposer leur vocabulaire, comme si, évidemment, le recours à certains mots était un geste autoritaire. » Et là, évidemment, on a réalisé qu'en fait, c'est quelque chose de profond. Et je dois dire, M. Trottier, que si nous avions eu cette conversation il y a, disons, un mois ou deux mois, j'aurais probablement été beaucoup plus pessimiste. Mais là, je vois que dans les médias, le débat, il est lancé. Et en fait, ce n'est pas un débat qui oppose les vertueux progressistes aux obscurantistes conservateurs. Pas du tout. On voit que c'est un débat qui refuse de se laisser enfermer dans les catégories usuelles de la gauche, de la droite. On voit qu'en fait, un peu partout, des gens se disent « Ben si, à l'université, on ne peut pas discuter librement, dans le respect, mais librement, où est-ce que cela va être possible ?»
On va faire un peu dans le Journal de Montréal où vous êtes chroniqueur, Joseph Facal, vous avez donné un petit abrégé sur 10 axiomes, si vous voulez, du wokisme. En fait, ça avait commencé en 1962, le mot woke a commencé dans un article du New York Times, je pense, sous la plume de William Melvin Kelly. Il disait « If you're woke, you dig it. Si t'es woke, tu piges. » Tu comprends? Donc, en 60 ans, ça a eu le temps vraiment de se développer, de faire des boutures, enfin, de faire des rhizomes sous la terre. On arrive maintenant à, c'est vous-même qui le faites, Joseph Facal, à un condensé en 10 points sur cette, je sais pas si on dit idéologie, sensibilité, courant, climat, enfin, le wokisme en tout cas. Il y a 10 fondements selon vous.
Bon, en fait, je l'ai fait en 10, j'aurais pu le faire en 12, le faire en 15. C'était une sorte d'artifice de mise en scène pour capturer, si vous voulez, l'intérêt du lecteur. Mais en fait, on part, c'est drôle, on part d'un constat qui, en soi, n'est pas faux, qui est celui de dire, ben, il y a des dominants et il y a des dominés. On part aussi d'un constat qui n'est pas faux, en disant, il y a des récits dominants, et ces récits dominants sont construits et imposés par ceux qui ont le pouvoir. Jusque-là, on pourrait dire que tout cela se défend. À la limite, on pourrait aussi dire que, par exemple, dans les cours d'histoire, certains personnages gagneraient à être davantage mis en lumière, que certaines œuvres n'ont peut-être pas reçu l'écho qu'elles méritaient. Jusque-là, ça va. Mais évidemment, quand on essaie de s'appuyer là-dessus pour faire le procès global de toute une civilisation en retenant exclusivement qu'elle est blanche, patriarcale, capitaliste, occidentale, homophobe, islamophobe, grossophobe, transphobe et tous les phobes que vous voulez, ben là, je m'excuse, là, on est vraiment dans un délire.
Joseph Facal, on va peut-être pas dépiauter chacun des points que vous avez soulevés, en tout cas dans votre chronique du Journal de Montréal, mais en tout cas, ce qui m'intéresse de votre part, c'est où est... Vous n'êtes pas contre... Vous remarquez vous-même que l'histoire est faite de gagnants, de perdants, plus ou moins gagnants, plus ou moins perdants, et l'idée est comment dirais-je, d'émousser les arêtes, les crêtes d'injustice trop criantes, évidemment. On ne peut pas rêver au paradis sur Terre. Quel est le point de bascule qui fait qu'on part d'un souci légitime de justice à une, je dirais même une hystérie, voire le pire côté de la religion qui revient nous hanter, non pas dans une église cette fois-ci, mais dans des combats sociaux?
Moi, je vous dirais que les deux aspects qui me trouble le plus, c'est d'abord cette espèce, tiens, pour reprendre un mot à la mode, cet amalgame qui est fait entre le droit de critiquer et le droit de censurer. C'est-à-dire qu'un étudiant dans une classe lève la main pour dire au professeur « moi j'ai un autre point de vue » ou bien « moi je conteste la légitimité de, ou moi, je vous demande de justifier ce que vous venez de dire, ou... » Bon, cela, si c'est fait avec politesse, à la limite, l'université est un lieu de débat, et s'il y a liberté d'expression pour les professeurs, jusqu'à un certain point, je conçois parfaitement qu'il y en ait un pour les étudiants. Là où, évidemment, il y a bascule, c'est lorsque des gens qui n'aiment pas un auteur, n'aime pas une théorie, n'aime pas un mot, veulent interdire qu'on le prononce. Autrement dit, il y a un glissement de la critique légitime jusqu'à faire disparaître le droit de citer. nous dérange. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, ce désir d'accéder à un nouveau savoir est porté par certains jusqu'à vouloir effacer ce qu'il faut bien appeler des œuvres canoniques, celles qui font que l'Occident est l'Occident. Alors évidemment, quand on me dit que, par exemple, il ne faut plus étudier, je ne sais pas moi, Shakespeare, parce que c'était un homme blanc mort il y a quelques siècles, là je dis, non, on est en plein délire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par exemple, des artistes méconnus. Et en ce sens, je ne suis pas contre le fait que l'on revisite périodiquement ce que les Anglais appellent « the canon », c'est-à-dire les œuvres fondamentales d'une culture. Voilà. Mais si de temps en temps on peut concevoir un élargissement, si de temps en temps on peut concevoir une cure de jouvence, s'il est vrai que les goûts et les sensibilités évoluent, évidemment, faire en sorte de rayer ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, là, évidemment, ça m'apparaît non seulement problématique, mais même, je vous dirais, dangereux. Car il y a là cette espèce d'idée que l'on pourrait construire un homme nouveau, qu'il y aurait une sorte de nature humaine qui, si on la travaille suffisamment, pourrait être débarrassée de ses impuretés, de ses scories, et là, on aurait une sorte de paradis sur Terre. Et à chaque fois qu'il y a eu ces volontés purificatrices, on sait comment ça s'est terminé.
Oui, vous citez Lord Acton, j'imagine, au 18e ou 19e siècle. Joseph Acal, vous êtes sociologue de formation. J'entends chez vous des relents métaphysiques. Je sais que pour un sociologue, le mot métaphysique est un petit peu, c'est comme de l'huile et de l'eau, mais ou du vinaigre. On est vraiment dans, j'ai l'impression qu'on revient dans un conflit métaphysique entre le bien et le mal ici-bas. Dieu, le péché originel, tout ça, c'est des foutaises. Mais il revient par la bande. Ces questions d'ordre eschatologique, d'ordre hypermoral, d'ordre métaphysique transcendante, ce que vous voulez, reviennent nous hanter, mais au niveau historique, et forcément c'est tellement gros à manier qu'on joue aux apprentis sorciers, et puis vous êtes le diable incarné, moi je suis l'ange incarné. J'entends dans vos propos en filigrane qu'on est presque dans une guerre de religion.
Est-ce que je me trompe ou pas? Une chance que vous dites presque, pour nuancer, mais sur l'essentiel, je ne peux que vous donner raison. Il y a chez certains de ces nouveaux contradicteurs, il y a un zèle, il y a un fanatisme, il y a un absolutisme, il y a un radicalisme, il y a un refus de la nuance qui a quelque chose de très inquiétant. Et oui, vous avez raison. Ce sont des gens qui, en quelque sorte, semblent pour chasser l'hérésie, n'est-ce pas?
C'est ça, voilà.
Et je vous avoue que, bon, dans le milieu académique, je ne suis pas sûr que beaucoup de nos auditeurs réalisent le nouveau climat. Bon, moi, d'une certaine façon, à HEC, école de gestion, je suis encore un peu à l'abri de cela, raison, si vous voulez, du côté très utilitariste des matières que l'on enseigne et des attentes, évidemment, de nos étudiants. Mais dans les départements des arts, des humanités, des sciences sociales, mais j'ai beaucoup de témoignages de jeunes, possiblement même majoritaires, qui disent on s'auto-censure, on craint les réactions, et il est frappant, d'ailleurs, de voir que ces croisades sont souvent déclenchées par une poignée d'étudiants, mais ils réussissent à faire plier des administrations qui craignent la controverse, qui veulent acheter la paix, et bien entendu, ce qui vient en quelque sorte complexifier l'affaire, et que nos universités considèrent maintenant les étudiants comme des clients, et donc forcément, le client a toujours raison. Si aujourd'hui, un administrateur universitaire disait « Excusez, nous, on sait ce que vous devez apprendre, et c'est ceci », eh bien, ce serait perçu comme un geste absolument autoritaire. Donc, il y a un contexte plus large, si vous voulez, qui est celui de la crise des autorités, de la crise des institutions, puis de la crise des universités.
Permettez-moi d'élargir un peu, Joseph Facal. Est-ce qu'il y a... je semble entendre chez vous le mot ingratitude ou le mot irresponsabilité, notamment de la part des... Vous savez, les French thinkers, Foucault, Derrida, les gens comme ça. À vous entendre, j'ai l'impression qu'ils ont joué avec le feu à une époque où c'était moins dangereux, mais ils ont ouvert une boîte de Pandore. Ben, évidemment, toutes les bestioles sont sorties et tous les esprits délétères et d'autres très bons aussi, parce que Pandore n'avait pas que... Il y avait aussi l'espérance dans sa boîte. J'ai l'impression qu'on a joué, nos intellectuels, beaucoup d'intellectuels, ont joué aux apprentis sorciers à une époque, justement, où on pouvait se permettre de taper sur le bourgeois, sur l'homme blanc, c'était moins dangereux. Aujourd'hui, ça devient carrément... Il y a un effet démultiplicateur qui nous fait découvrir à quel point cette pensée était, pas subversive, mais plutôt destructrice.
Oh, vous savez, s'il y a quelque chose que les intellectuels devraient pratiquer davantage, c'est l'autocritique et l'humilité. Hein. À la base de chacune des grandes catastrophes, il y a souvent eu des raisonnements d'intellectuels tout à fait d'apparence sophistiquée pour justifier l'intolérable. Je vous avoue qu'il y a là... Il y a là quelque chose que je n'ai pas creusé, mais qui serait absolument fascinant. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la matrice intellectuelle du wokisme nous provient d'intellectuels français des années 60. Ensuite, évidemment, très influents pendant les années 70, 80, et ensuite, pendant les années 90, 2000, bon, la crise du marxisme, la chute de l'Empire soviétique, la chute du mur de Berlin, ces gens ont en quelque sorte été un peu oubliés. Bon, Luc Ferry et compagnie ont écrit des pages comiquement méchantes sur ce qu'ils appelaient la pensée 68. Et bizarrement, ces penseurs, un peu en partie oubliés en France, ont connu une deuxième vie aux États-Unis. Et là, vraiment, il y a une sorte de fascination des Américains pour certains penseurs français, et d'une certaine façon, ben, on les a remis au goût du jour, on les a relancés en version 2.0, et ils trouvent maintenant une sorte de deuxième jeunesse qui fait que, bon, on est peut-être en ce moment devant quelque chose qui a un aspect mode. Je pense que certaines choses ont été si loin que là, vraiment, des correctifs seront apportés. Et on voit que certaines administrations commencent à adopter des déclarations fondamentales sur l'importance de la liberté académique, mais en même temps, c'est un mouvement qui est là pour rester. Et il suffit, évidemment, de parler à des jeunes de 17, 18, 20 ans pour voir à quel point, justement, toutes ces réflexions sur le colonialisme, l'impérialisme, les minorités opprimées et tout sortent comme véritablement des quasi-automatismes.
Il nous reste une unité et demie, Joseph Facal. Pardonnez ma question, mais qu'est-ce que vous recommandez que l'honnête homme fasse face à cette déferlante souvent irrationnel, malgré toute la théorisation autour de ça. Je veux dire, c'est bien beau, vous et moi, on discute aimablement à la radio, mais devant une... devant 4-5 woke, on ferait peut-être pas le poids. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Jésus, on se fait crucifier, on est comme Socrate, on boit de la ciguë. En une minute maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire?
On résiste. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le langage populaire le gros bon sens, et il y aurait une sorte d'éloge du gros bon sens à écrire. Vous savez, non, ça existe, la réalité objective. Hein? Et quand je vois maintenant, et ceci, Jean-Philippe, n'est pas une blague, quand je vois maintenant des gens qui nous disent maintenant que la déconstruction des arts et des humanités est bien entamée, passons à la déconstruction maintenant des sciences exactes, où là, vraiment, on voit des gens, et je suis sérieux, qui nous disent que la physique, les mathématiques sont porteuses de biais cognitifs et culturels. Là, je dis, du calme. Alors, il y a une limite au relativisme, il y a une limite à dire n'importe quoi, et il ne faut surtout pas plier.
Joseph Facal, professeur à HEC Montréal et chroniqueur pour le Journal de Montréal. On peut vous lire sur le site de ce journal, et vous avez offert un genre de petit abrégé de wokisme. Aujourd'hui, on a vraiment couvert le fondement, si vous voulez, philosophique de cette histoire-là. Merci infiniment et à une prochaine peut-être.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, Joseph Facal. Voilà, à venir sur les ondes de Radio VM, la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient après la pause publicitaire.